Voilà. Ça marche. Nous te remercions, Seigneur, pour ce rassemblement. Merci parce que, en partageant nos louanges, notre reconnaissance, nous nous enrichissons les uns les autres devant toi. Nous te louons pour la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs à chacun et au milieu de nous. Que ton Esprit, Seigneur, nous révèle ta parole comme actuelle, personnelle, nourriture pour le chemin, breuvage pour nous renouveler. Ô notre Père céleste, c'est à toi que nous devons tout cela. Nous célébrons ta miséricorde. Oui, car de la poussière, tu relèves le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ton peuple. Loué soit notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand même. Voilà. Bon cross. Ah, j'ai tout entendu. Hein. Nous voulons nous réjouir en ouvrant l'Écriture. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, ce texte m'est venu à l'esprit, puis quand je l'ai lu, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Luc, chapitre 16, verset 1er. Jésus dit encore ou aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 2100 litres d'huile. » C'est à peu près l'équivalent des 100 mesures. Répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet. « Assieds-toi vite !» et écris « 50 ». Puis il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé. » Je ne sais plus combien ça fait, chose comme 400 litres de blé, céréales. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà bien des questions qui peuvent surgir à travers cette parabole quelque peu choquante. Cette parabole est introduite par « Et Jésus dit à ses disciples » ou « Jésus dit encore à ses disciples ». Alors je me suis dit, il faut peut-être s'occuper de ce qu'il y a avant. Et juste avant, on trouve une autre parabole, celle du Père admirable et de ses deux fils. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de commun entre la parabole, surtout la dernière des trois paraboles de Luc 15, ici et la nôtre? Eh bien, je vois trois éléments qui leur sont communs. Il est question d'abord d'une dilapidation des biens, dans les deux cas. Il est question d'une crise qui survient, une crise qui provoque la réflexion et une décision. Et puis, troisième élément, il est question d'une mise en route en vue d'un accueil. C'est ce qui est commun entre les deux paraboles. Dans celle que nous avons lue, la dilapidation de l'argent, c'est la mauvaise gestion de l'économe. La crise, c'est son licenciement, suivi du chômage. Ça, on connaît bien. Mais il réagit et dit « Je sais ce que je vais faire. » Des faux en écriture. Et troisième élément, le but, c'est pour être accueilli dans des maisons. Les maisons des débiteurs du maître, s'assurant un avenir possible quand il serait licencié. Bon, c'est vrai que des différences existent aussi entre ces deux paraboles. Par exemple, la dilapidation de l'argent n'a pas la même cause. D'un côté, il y a la vie de patachon que mène le plus jeune des fils, puis de l'autre côté, il y a la malhonnêteté de l'économe. Ou peut-être l'incompétence, ce n'est pas vraiment précisé. Dans les deux, il y a une crise, je l'ai dit. Dans le premier cas, la crise est économique, c'est une crise géante, comme celle que nous connaissons depuis, faut dire, des décennies, pas seulement depuis 2008. Donc une crise économique, tandis que dans le deuxième cas, dans le cas de l'économe, la crise relève du règlement des comptes. Et voilà, tout à coup, en crise, il doit rendre compte. Et enfin, l'accueil. L'accueil qui exprime la compassion du Père dans la première. Quelle surprise pour lui, n'est-ce pas ? Il prend la décision de rentrer en ne prétendant à rien. Il dit, il y a à manger chez mon Père, je vais juste lui demander un strapontin, un statut d'ouvrier, je ne demande rien de plus. Puis qu'est-ce qu'il va découvrir ? Des bras ouverts. La fête. Là aussi, il y a un élément scandaleux, puisque le fils aîné trouve très choquant que le père fasse la fête pour celui qui a mangé son bien avec des prostituées. Alors que lui... Donc il y a vraiment des différences aussi. Tandis que l'accueil de l'économe, l'accueil espéré, ce sera certainement dû à la reconnaissance des débiteurs du maître auquel il a enlevé le fardeau d'une facture un peu lourde. Donc il y a aussi des différences en même temps que des points communs. Quoi qu'il en soit, de ces points communs ou de ces différences, le surgissement, c'est commun aux deux, le surgissement de la crise appelle une réflexion, un retour sur soi ou en soi, et une mise en route. Où Luc veut-il en venir en nous rapportant ses récits ? Parce qu'il y a vraiment insistance. D'autant plus qu'on pourrait encore ajouter une autre parabole qui suit, c'est celle du riche et de Lazare. Elle vient juste après. Les versets 19 à 31, vous la connaissez, ces paraboles aussi. Elles posent la même interpellation sur la gestion de notre vie. En ignorant la présence de Lazare couché à sa porte, le riche manque le but. Il pêche et il se retrouve parmi les réprouvés. Il a mal géré son capital vie. Il a ignoré Lazare. Maintenant, il est ignoré, lui. C'est solennel tout ça. Alors revenons à la parabole du gérant habile. Il ne s'agit pas de la surinterpréter, attention, d'en faire une lecture allégorique. Souvent, les gens confondent parabole et allégorie. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans les deux cas, ce sont des images, mais elles n'ont pas la même fonction. Dans une parabole, la fonction d'une parabole est de nous mettre en mouvement par sa pointe. Une parabole nous aiguillonne, elle nous fait avancer. L'allégorie a un autre but, c'est de nous révéler des mystères, parce que tous les éléments y sont importants. Ce n'est pas le cas de cette parabole de Luc 16. Donc pas de surinterprétation. Comme on dit, la pointe de la parabole, c'est que Jésus nous appelle à une conversion, à un changement radical de mentalité, à un renouvellement de l'intelligence, ce que le grec du Nouveau Testament appelle « métanoïa ». Un changement de pensée, d'intelligence, de valeur, de conception des choses. L'histoire du gérant malhonnête peut choquer parce qu'une escroquerie y devient un trait de génie. Une sagesse habile, louée par un maître pourtant lésé. Bien sûr, il ne s'agit pas pour Jésus de faire l'apologie d'une malversation et de faux en Écriture. Comme tel, il ne s'agit pas de limiter comme tel cette malversation. Jésus, tout simplement, invite ses auditeurs et nous aussi à imiter cette prudence avisée du gérant qui prépare son avenir. Et là-dessus, je voudrais faire trois petites remarques. La situation du gérant est, d'une part, urgente, ensuite irréversible, irrévocable, et enfin propice à un changement. Il y a urgence. L'évangile de Marc nous donne un résumé de la prédication de Jésus. C'est au chapitre 1er de Marc, chapitre 1er, versets 14 à 15, je vous les lis. Après que Jean-Baptiste, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le temps, le kairos, c'est-à-dire c'est pas simplement le calendrier qui tourne, le chrono qui tourne, mais le kairos, c'est un autre terme pour désigner le temps en grec. Ça veut dire un temps événement, un temps qui change tout. Le temps est accompli, dit Jésus, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, métanoïété, changez de mentalité, et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est un résumé de la prédication de Jésus au démarrage de son ministère. Donc, on a déjà là un sentiment d'urgence. Le temps est accompli. Il a pris une densité inconnue jusque-là. C'est une façon de dire que la venue de Jésus, pas seulement Noël, mais aussi toute sa vie, la venue de Jésus, ses gestes, ses paroles, sa mort et sa résurrection ouvrent un temps d'urgence. Dans notre parabole, le gérant agit dans l'urgence. Prends ton billet, vite, assieds-toi et écris. On n'a pas de temps à perdre. Et il y a deux exemples qui nous sont donnés, hein, mais on peut imaginer qu'il y en avait d'autres. Tous les débiteurs y sont passés dans l'urgence. Depuis, cette urgence inaugurée par la venue de Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, cette urgence enjambe les siècles, elle marque notre temps, malgré les apparences. Nous vivons tous dans l'urgence du règne qui a déjà surgi et qui s'apprête à s'établir en totalité. Moi, c'est ma prière de tous les jours. Que ton règne soit là, en totalité. Pour l'instant, nous le sommes dans l'espérance. C'est urgent, le royaume de Dieu. Ça ne peut pas attendre. Et pourtant, nous n'avons pas l'impression que ça va vite. Nous avons l'impression que tout reste comme au début. Ça traîne en longueur. Et pourtant, non. Le règne est urgemment présent. Moi, ça me réjouit. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Le temps de Dieu est, comment dire, il fait craquer toutes les limites. Voilà. Dans notre parabole, donc, le gérant agit dans l'urgence. C'est un peu ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains, par exemple. Je prends ce texte comme ça, Romains 13, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit ? Après avoir exhorté les chrétiens à se consacrer totalement au Seigneur, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors, Paul a dit ça, il a écrit ça il y a bientôt 20 siècles. Hein. Que ne devons-nous pas prêter attention à ce qu'il dit ? Le culte que nous célébrons, en permanence, hein, vous vous rappelez ? Le culte que nous célébrons, mais aussi ce matin, par exemple, à quelques-uns, derrière une porte fermée, fait craquer les limites de l'histoire et du temps. Nous sommes rassemblés aux myriades d'anges qui célèbrent Dieu dans la lumière. Nous sommes réunis à nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés dans la gloire. Nous nous sommes approchés de la montagne du Dieu vivant, des cœurs célestes. Nous sommes unis à eux ce matin, tandis que nous sommes là, même si nous n'avons pas cette impression, ce sentiment. Nous sommes invités à cette fête universelle et éternelle. Alléluia. Oui, ce culte que nous célébrons fait craquer les limites de l'histoire et du temps. Ces limites deviennent poreuses et laissent entrer le dernier jour. Notre louange a une saveur d'éternité. Soyez fiers et reconnaissants. Soyons fiers et reconnaissants de ce que malgré toutes les apparences, petite église dans un petit coin de Bretagne, tranquille, qui semble déranger personne, eh bien, c'est absolument géant ce qui se passe. Vous rendez compte ? Ça, c'est parce que l'urgence du royaume de Dieu a pénétré notre histoire au moment de la croix. Il y a aussi, je l'ai dit, ça c'est ma deuxième remarque, une situation irréversible. Le maître dit, rends compte de ton administration, tu ne pourras plus administrer mes biens. C'est fini. Et il a très bien compris. Hein. Qu'est-ce qui est irréversible pour nous, par exemple ? La mort. Il n'y a rien de plus irréversible qu'une mort humaine, en tout cas. Même la mort de Jésus est irréversible. Parce que la résurrection de Jésus n'efface pas la mort. Elle la qualifie, elle la valide. La résurrection de Jésus n'est pas un retour sur image. C'est une création nouvelle, un acte créateur. Vous me comprenez ? Mais jusqu'à celle de Jésus, toute mort est irréversible. Or, oui, la mort de Jésus, irréversiblement, révèle la fin du monde. L'Apocalypse, c'était hier, à Golgotha. Je sais que là, il y a beaucoup d'avis divergents, mais je suis convaincu que la fin du monde, elle a déjà été actée par Dieu en Jésus-Christ sur la croix. C'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. La croix de Jésus condamne le monde et ses valeurs fausses. Et là, on peut parler de tout. De religion, de philosophie, de science, de tout ce que l'on voudra. Notre monde a été irréversiblement disqualifié à Golgotha. Nous avons déposé le bilan à Golgotha. Dieu ne veut plus rien savoir d'autre, nous concernant les uns et les autres, que si nous avons confiance dans son Fils unique. Dieu ne va pas faire les comptes d'apothicaire de nos petits péchés. Il ne demande qu'une chose, aie foi en Jésus. Que fais-tu de lui ? Il suffit de saisir sa main et nous voilà arrachés à toute condamnation, à toute malédiction, à toute suggestion à une médiation spirituelle quelconque. C'est fini. Alléluia, nous sommes devant Dieu irréversiblement depuis la croix. J'ai parlé des valeurs fausses de ce monde qui sont condamnées par la mort de Jésus. Dans notre parabole, vous l'avez remarqué, Jésus qualifie ainsi tout ce qui nous est confié. Ce sont des richesses qualifiées d'injustes. C'est-à-dire en opposition aux biens véritables. Elles sont injustes, non parce qu'elles sont mal acquises, mais parce qu'elles sont illusoires, qu'elles ne nous appartiennent pas, mais qu'elles nous sont confiées. Nous sommes tous des gérants, nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Elles nous sont confiées, mais on peut éviter de se faire avoir par elles. Ces richesses injustes. Bien sûr, l'argent est visé au premier chef, puisque Jésus parle du mammon injuste. Mammon, c'est l'idole cananéenne de la richesse. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que l'argent qui est visé. C'est tout notre capital vie, notre intelligence, nos forces, notre santé, notre corps, nos biens. Tout cela est qualifié d'injuste. Peut-être devrais-je dire immérité, grâce. Mais il s'agit, selon Jésus, d'en faire l'usage selon la sagesse qu'inspire l'Évangile. Toute vie humaine est irréversiblement jugée, mise en crise. D'ailleurs, le mot « jugement » est traduit par « crise ». Le mot « crise » traduit le jugement. Et la croix, c'est un jugement. C'est vraiment la crise absolue qui est survenue. Paul déclare dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est irréversible. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà la sagesse. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est le basculement total. Il y a un autre texte qui me vient à l'esprit, quand Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais au fond, on pourrait le dire ainsi, au regard de Dieu, devant Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus-Christ. Vous le croyez? Quand Dieu regarde le rassemblement que nous sommes, quand Dieu regarde chacun de nous, il ne voit pas chacun de nous comme homme ou femme, juif ou non, grec ou non instruit, riche ou pauvre. Il ne voit pas ça, Dieu. Il voit son Fils bien-aimé. Il voit son Fils bien-aimé. Et à chacun de nous, il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà le cadeau de Noël. N'est-ce pas merveilleux? Donc voilà pour une situation irréversible. On ne reviendra pas là-dessus. Et c'est pourquoi je trouve que le baptême est une magnifique image de la venue à la foi. Parce que si on vous plongeait dans l'eau 2 heures, ce serait aussi irréversible, hein. Mais on ne le fait pas, quand même. Mais le baptême a ce caractère d'absolu. On disparaît. C'est une immersion. On disparaît. Et de l'autre côté du baptême, on ressort mouillé. Non. Oui, jusqu'au cou. On ressort en laissant derrière nous notre vie ancienne, notre mort, notre condamnation, nos esclavages. Tout ça, c'est laissé derrière. Alléluia. Irréversible. Troisième et dernière remarque. J'ai dit que le gérant connaissait une situation pourtant riche de potentialité. Et ça, c'est une preuve de plus de son génie, de sa sagesse, que le maître loue d'ailleurs. Il a su discerner qu'il y avait une solution d'avenir. Et il l'a saisie, cette solution. L'unique possibilité de rebondir. Se faire des obligés. Vous comprenez ça? Des gens qui lui seront reconnaissants. Se faire des obligés en vue de l'avenir. Là est la prudence que le maître salue. C'est comme s'il disait « Ah, chapeau l'artiste !» Ah oui, toi t'es fort, hein? Parce qu'il va utiliser l'argent du maître pour se fabriquer des sympathisants avec la richesse de l'autre. C'est fort, hein? Et Jésus dit, mais c'est quand même génial ce qu'il fait, ce type-là. Non pas parce que c'est malhonnête, mais parce qu'il a compris les mécanismes des enfants de ce siècle. Que dit Jésus? C'est là un verset un peu qui m'a interpellé. Je me dis, mais où il veut en venir? Les enfants de ce siècle sont plus avisés, géniaux, on pourrait presque dire roublards, à l'égard de leur semblable, plus que ne le sont les enfants de lumière. Là, on est dans un vocabulaire de Qumran, vous savez, la communauté des Esséniens. Les Esséniens se définissaient, eux, membres de la communauté, les enfants de lumière. Et puis tous les gens extérieurs à leur secte, c'était des enfants de ténèbres. Voilà, c'est clair, c'est manichéen, c'est tout blanc, tout noir. Et donc, Jésus connaissait certainement ce vocabulaire et il la réutilise ici pour dire, pour parler des enfants de ce siècle comparés aux disciples, ses disciples, qualifiés d'être des enfants de lumière. Un constat, Jésus fait ce constat, les enfants de ce siècle en sont là encore de nos jours. Ils sont roublards. Ils sont un peu comme Bernard Tapie. Il va jamais au tapis, lui. Roublard. Et c'est pas le seul. Il y a une certaine dame au FMI, là, qui... Enfin, bref. Ils sont plus retors que ne le sont les enfants de lumière. Alors, j'essaye de comprendre ce que Jésus veut dire par là. Je vois tout de même pas très bien Jésus reprocher à ses disciples, les enfants de lumière, d'être des naïfs. Mais les enfants de lumière, s'ils sont fidèles au Seigneur, ne peuvent pas se permettre d'être retors après tout. Alors, où est le problème? Eh bien, ils sont incapables, par honnêteté, d'imiter les enfants de ce siècle. Mais Jésus leur dit, d'une certaine manière, prenez-en de la graine, de l'autre, là, de l'économe infidèle. Prenez-en de la graine, non pas de sa malhonnêteté, mais de sa prudence avisée. À partir du verset 9, Jésus tire enseignement de la parabole à l'intention des disciples. Et moi, je vous dis. Alors, il ne nous invite pas dans son enseignement à spéculer sur les tentes éternelles. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une allégorie. Mais il dit simplement, inspirez-vous de cette histoire. Même si par ailleurs, il est certain que Dieu récompensera la fidélité des siens qui auront bien géré leur vie. Là, je pense que ça rejoint le chapitre 25 de Matthieu, où le roi accueille les justes en leur donnant la raison de cet accueil. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade en prison. Vous êtes venu vers moi. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Voilà en quoi consiste cette prudence avisée, cette sagesse qui prépare l'avenir. Car les justes sont tout étonnés. Mais quand on t'a vu comme ça, malade, en prison, t'es le roi pourtant. Chaque fois que vous avez fait ça, au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je voudrais terminer, conclure en disant que l'Évangile appelle un changement radical de nos manières de penser, de voir le monde, de voir Dieu, de voir notre prochain. Il nous décentre de nous-mêmes. Cela s'appelle une conversion. Et vous me direz, mais je suis converti, moi. Oui, mais vous savez que la conversion, c'est quelque chose de permanent. Il y a quelqu'un qui parlait du coup d'État permanent en France, je ne sais plus qui, Mitterrand, je crois, enfin bref. Ce n'est pas un coup d'État permanent, c'est une conversion permanente que nous sommes invités à vivre. Tous les jours, c'est un chantier ouvert. Et quel chantier ? Une conversion, le renversement des valeurs opéré par la croix doit impacter nos vies en permanence. Pas s'habituer, nous décentrer, nous ouvrir aux autres, nous libérer de l'emprise de l'immédiateté à courte vue. Je parlais il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, avec un professeur d'économie qui me disait sa difficulté avec les élèves, les ados, les jeunes en général. C'est quelque chose qu'il avait constaté, un phénomène pas vraiment nouveau, mais quand même qui prend beaucoup d'ampleur. Il disait, mon problème avec eux, c'est l'immédiateté. Ils ne savent plus attendre, il faut tout de suite la réaction, il faut... Voilà, ils vivent dans l'instant. Et je pense que nous sommes parfois contaminés, peut-être, nous aussi les chrétiens, par ce désir d'immédiateté. Redécouvrons les lenteurs, les silences de Dieu, redécouvrons la persévérance. Il y a trois mots qui font florès dans notre civilisation, c'est le scoop, le zap et le clip. Voilà. Le clip, c'est, ça empêche de réfléchir, c'est, ça va très vite. Le zap, ben, c'est un manque de persévérance, on change de chaîne, on change de mari, on change de ceci, de cela. Mais c'est la société dans laquelle nous sommes, non ? Et le scoop, on est toujours à la recherche de l'événement. On court après. Un événement, une loi. Voilà ce qui imprègne notre société aujourd'hui. Le livre des Actes nous donne d'autres mots. Par exemple, il persévérait dans la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres. Voilà les mots-clés dont nous avons besoin. C'est la sagesse. Ah oui. Paul donne un exemple de cette sagesse, de ce décentrement de soi, dans 1 Timothée 6, versets 18 à 19, « Que les riches fassent le bien, s'enrichissent de belles œuvres, donnent avec largesse, partagent avec les autres. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir, afin qu'ils se saisissent de la vie véritable. » Voilà. Nous, j'en ai terminé là, mais nous n'en avons pas terminé avec tout ça. Prions le Seigneur qu'il nous donne de saisir l'air du temps en gardant l'espérance, en gardant intacte notre reconnaissance au Dieu qui nous a tellement aimés. Pas vrai ?
Amen.
Amen. Alléluia. Prions. Nous voulons, Seigneur, te remercier de nous avoir parlé par ton Fils Jésus-Christ, de nous rendre conscients de notre situation devant toi dans le monde, de notre situation de dépositaire et gérant de tous les trésors que tu nous as confiés. Aide-nous à bien les gérer, Seigneur. Et que ta lumière à travers nous puisse resplendir au milieu des hommes et des femmes de ce monde. Oui, que notre communauté et chacun de nous soit en lui-même une évangélisation permanente. Amen.
Merci Laurent.